Je partage aussi bien mon expérience en PPP que mon amour du français. C'est bon pour vous tous de pratiquer le français. Donc j'en profite et j'en use et j'en abuse. Alors je vais continuer sur effectivement la dette dans les PPP et la transparence et le principe de transparence. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est totalement impossible de cacher une dette dans du PPP. Il est peut-être possible que vous n'ayez pas envie de la montrer, mais néanmoins, il n'est pas possible de la cacher. Donc, telle la montagne, vous pouvez décider que vous ne la voyez pas, mais un jour, quelqu'un vous dira, la montagne est là. Donc, c'est quelque chose qu'il n'est pas possible de dissimuler. Le deuxième bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas grave d'être endetté. C'est même plutôt sain, c'est bien d'un point de vue financier. Avoir de la dette, c'est une bonne chose. Tout dépend quelle dette et pourquoi faire et qu'est-ce que ça finance. Donc, et là, on en revient à nos discussions de ce matin. Dès lors que c'est de la bonne dette qui va financer des projets SDG, c'est-à-dire des projets qui vont contribuer au bien-être économique et au bien-être des populations, vous êtes certain que c'est de la bonne dette et donc que l'actif sous-jacent à votre dette est positif. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, contrairement à des projets qui sont financés sur budget public, qu'on renouvelle tous les ans et dans lequel le projet va être noyé, la dette d'un PPP est identifiée au travers de contrats de financement qui sont signés par des sociétés privées. Et généralement, quand elles ont réussi à monter un projet, elles sont très contentes et elles mettent ça dans le journal partout. Donc, ça sera connu parce que ça sert à leur propre réputation. Et donc, forcément, la dette ne peut pas être identifiée. Alors, quel est le rapport avec les gouvernements? Le rapport est que ces financements, bien qu'ils soient totalement privés, ils sont dus à une banque, il faudra bien rembourser la banque. Qui rembourse la banque? Si tout se passe bien, c'est le projet qui rembourse la banque, c'est-à-dire c'est les revenus générés par le projet qui vont rembourser la banque. Mais si ça se passe mal, ça n'est pas forcément le secteur privé qui va rembourser la dette. Dans un contrat PPP, la personne publique a des obligations, tout comme la personne privé a des obligations. Madame Gürsel l'a rappelé tout à l'heure, il y a un partage des risques, ça veut dire que chacun prend ses responsabilités. Très souvent, c'est de la mise à disposition de contexte public au niveau des autorisations, il y a des choses à faire par le partenaire public. S'il ne les fait pas, il risque de mettre le projet en péril et à ce moment-là, le partenaire privé va dire « mais moi, je ne suis pas fautif, ce n'est pas moi qui rembourse, c'est toi ». Et donc, cette obligation se traduit dans le contrat, par les clauses de résiliation. Il n'y a pas un projet en PPP qui sera financé par une banque s'il n'y a pas de clause de résiliation. Et si ces clauses de résiliation ne disent pas, si le partenaire public est fautif, il ne rembourse pas. Donc, dans tous les contrats, le partenaire public doit rembourser la dette s'il est fautif ou bien s'il n'a plus envie de faire le projet. Clause d'intérêt général, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Ce projet-là, j'en veux plus, j'en veux un autre. C'est à lui de rembourser la dette. Donc, dans ces cas-là, forcément, en signant le contrat avec le partenaire privé, la puissance publique prend un engagement financier. Quand bien même le financement est porté par le privé et travaillé par le privé. Donc, vous comprenez bien que si vous ne vous intéressez pas à ce qu'il fait, si vous le laissez monter n'importe quel type de financement, n'importe comment dans son coin, vous prenez ultimement la responsabilité de ce qu'il a fait dans certains cas. Et le jour où il faudra dénouer les contrats financiers, vous allez découvrir potentiellement des horreurs financières qu'il vous faudra payer. Donc il est intéressant de ne pas se désintéresser du financement pendant toute la procédure d'appel d'offres et pendant tout le montage du projet et de vérifier quel type de financement le partenaire privé contracte et être sûr qu'il ne vous engage pas trop et pas au-dessus des moyens que vous pouvez avoir. Alors comment on sait si c'est au-dessus des moyens ou pas au-dessus des moyens? Et ça répond quelque part à la deuxième question, qui est comment on fait pour que ça ne vienne pas trop obérer la capacité financière des personnes publiques. Pour moi, la meilleure solution, c'est l'évaluation budgétaire préalable au projet. C'est-à-dire vraiment, avant de contracter et avant de signer avec le partenaire privé, de faire sa propre évaluation du coût du projet globalement, en termes de fonctionnement normal, dans son quotidien, éventuellement en y intégrant quelques surcoûts. Il peut arriver dans le quotidien, dans la vie du projet, que il y a des choses qu'on n'ait pas prévues, il faille recaler un peu ou un peu de retard. Ce sont des choses qui arrivent souvent sur les autorisations administratives. On doit faire jouer plusieurs ministères, on prend 6 mois de retard. Ça génère des intérêts supplémentaires sur la dette. Qui doit payer ça? Le banquier autorise un petit peu de souplesse, mais néanmoins, on fera porter la charge financière à quelqu'un. Donc ça, il faut l'évaluer en amont pour bien connaître le périmètre financier, le périmètre du financement auquel on s'engage ultimement. De la même manière, plus le cahier des charges du projet sera précis, plus les divergences avec les partenaires privés seront petites et moins on aura de surprises en termes de surcoûts. Donc dans l'évaluation budgétaire, il est important de faire ce travail, de bien lister l'ensemble des coûts et l'ensemble des recettes et de vérifier que les deux matchent bien et non seulement matchent bien, mais qu'on a plus de recettes que de dépenses, de sorte que le différentiel entre les recettes et les dépenses soit capable de payer une charge financière. Donc c'est dans notre jargon ce qu'on appelle le taux interne de rentabilité des projets. On fait un petit calcul actuariel où on prend l'ensemble des recettes d'exploitation, on enlève les coûts d'exploitation, on actualise tout ça et on compare ça aux dépenses. Et on arrive à un pourcentage, un taux de pourcentage, dit n'importe quoi, genre 8%. Bon, 8%, ça sera ce que votre projet est capable de payer en taux de financement. Si dans votre pays, le taux de financement est à 12, vous avez un gros problème. Le projet n'est pas finançable. S'il est à 5, oui, il est finançable. Donc, il est impératif de faire ce projet en évaluation préalable au projet et de ne pas faire ce que je vois encore trop souvent, c'est simplement des évaluations socio-économiques. Un projet peut être très intéressant de façon socio-écologique, mais ne pas être finançable et bancable. Donc, il y a plusieurs solutions ensuite pour structurer les projets de façon plus ou moins robuste. Donc, tout ça, ça s'étudie à ce moment-là. On a posé aussi la question, et là, je vais finir assez vite, sur comment on peut structurer les conditions tarifaires des projets de sorte à garantir le fait que les projets soient abordables et en même temps soient viables. Alors, j'en reviens à ce que je viens de dire. Soit les tarifs du projet génèrent suffisamment de revenus pour venir financer les dépenses, soit pas. Et donc, quand vous avez un écart, vous n'avez pas tant de solutions que ça. La première solution, c'est d'imposer un plafond tarifaire et puis de compenser avec de la subvention le manque de revenus de façon à équilibrer les recettes et les dépenses. Vous pouvez aussi le faire sous forme d'un loyer compensatoire en passant par des projets non pas en concession mais en availability based. Et puis après, vous avez toujours l'outil de la blended finance qui consiste à déscoper le projet, enlever des parties au projet et le faire financer par une banque multilatérale dans un cadre plus large. C'est ce qu'on appelle la blended finance.
Bravo Doris.